rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne est consacré aux séries télévisées, histoire de vous donner des idées pour passer de bons moments pendant vos vacances et vos longues soirées d'automne. Nous allons vous parler de séries que nous avons aimées, des coups de cœur récents ou des séries déjà cultes, pour vous rappeler qu'il serait dommage de passer à côté de ces chefs-d'œuvre si vous ne les avez pas encore regardés. Il sera donc question de The English Game et de Dahmer Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer grâce à Aurore. Nathalie nous présentera Sandman et Godless. Yann a choisi Six Feet Under et les Ch'tisel, une famille juive à Jérusalem. Amy nous conseillera Midnight Diner, Tokyo Stories et Zvi Alchion. Antoine établira un parallèle entre House of the Dragon et The Wing of Power. Enfin, pour ma part, j'ai sélectionné It's a Sin et Les Papillons Noirs. Quel programme ! Nous commençons avec Aurore pour The English Game, dont voici un extrait de la bande originale.
Et oui, c'était The English Game. Mais de quel jeu parle-t-on ? Eh bien, de football, évidemment. Attention, cette mini-série a aussi un fond historique. Et tout commence en 1879, en Angleterre. Et oui, nous sommes au tout début du football, quand ce sport était encore réservé à une élite bourgeoise. Enfin ça, c'est ce qu'il croyait. La série commence justement au moment où l'équipe de Darwen, ville ouvrière du Lancashire, recrute deux joueurs écossais dans l'optique de décrocher la Coupe d'Angleterre, bien sûr. Aussi connue depuis 1871 sous le nom FA Cup Football Association Challenge Cup, doyenne des compétitions de football dans le monde. Mais les équipes bourgeoises n'ont pas encore dit leur dernier mot face à cette équipe ouvrière de Darwen, et c'est le début d'un vaste débat. Est-ce que les ouvriers peuvent jouer au football face aux bourgeois ? En fait, pourquoi ne le pourraient-ils pas ? Mais finalement, quelles chances ont-ils de gagner en travaillant d'arrache-pied toute la journée, quand d'autres peuvent se libérer des journées entières pour s'entraîner ? C'est là que la question de la professionnalisation dans le football intervient, mais à cette époque, ce n'est pas admissible. Être payé pour jouer, c'est tricher. Bref, toute une autre époque. Maintenant, à l'heure de bientôt la Coupe du Monde, ça permet de remettre un peu en perspective ce jeu maintenant légendaire. Et pour ne pas vous gâcher le suspense, je ne dirai pas le nom des premiers joueurs à avoir été payés pour jouer. En tout cas, c'est une mini-série que vous pouvez regarder sur Netflix en 6 épisodes. Voilà, The English Game. Et nous allons passer un extrait de The Sandman. Alors, un extrait du générique. Voilà. Et après, Nathalie nous en dira un petit peu plus.
Thank you.
Ce thème, onirique et mélancolique au début et grandiloquent vers la fin, symbolise très bien la série Sandman. Il s'agit d'une série Netflix composée de 10 épisodes à sa sortie le 5 août 2022. Un 11e épisode très différent lui a été ajouté 15 jours plus tard. La série est basée sur les deux premiers tomes des 11 collections de romans graphiques de fantasy du même nom, créés par Neil Gaiman, auteur britannique prolifique de romans, de comics, de nouvelles, de séries et de films. Ces romans graphiques ont été publiés chez DC Comics entre 1989 et 1996. Neil Gaiman y réinvente le vieux personnage de Sandman, c'est-à-dire le marchand de sable, un personnage sans âge qui est l'incarnation de Dream, le roi des rêves, présent dans de nombreuses mythologies dont Neil Gaiman puise énormément pour l'écriture de l'histoire. Neil Gaiman a participé à l'adaptation de son œuvre en y faisant quelques modifications, quelques modernisations, ce qui, dans son cas, est un gage de qualité. Donc pour l'histoire, Morpheus, donc le roi des rêves, se trouve capturé par erreur par une secte mystique qui cherchait à attraper la mort. Il reste enfermé dans le sous-sol d'un manoir pendant 106 ans, à partir de 1916. Il finit par s'échapper à notre époque et il entreprend un périple à travers les deux mondes. Donc on visite le monde des rêves et le monde éveillé. Il fait son périple pour retrouver ses artefacts, son home, son sable et sa pierre de rêve, pour récupérer ses pleins pouvoirs et reconstruire le royaume des rêves qui est en ruine à cause de sa longue absence. Par la suite, Morpheus apprendra l'existence d'un vortex qui a la particularité de briser la barrière entre les mondes et causer des événements qui peuvent être terribles. Avec l'aide de sa précieuse bibliothécaire du royaume des rêves, Lucienne, qui est la seule habitante du royaume des rêves restante depuis le départ de Morpheus, et de son corbeau Matthew, le roi des rêves part à la recherche du vortex pour l'arrêter. Alors, l'acteur Tom Sturridge, qui fait un parfait Morpheus, arrogant et taciturne, est entouré par une flopée de second rôles incroyables, joués entre autres par Jenna Coleman, qui joue une version féminine du personnage de Constantine. On a aussi Stephen Fry, qui joue une incarnation humaine d'un lieu du royaume des rêves. Et on retrouve aussi Gwendoline Christie, qui joue le personnage de Lucifer, aussi en incarnation féminine du personnage de Lucifer. L'ambiance de la série a évidemment des côtés oniriques. On pénètre dans l'univers fantasmagorique passionnant de Neil Gaiman et on y retrouve l'esprit gothique qui lui est cher. Netflix a déployé de grands moyens pour livrer des décors grandioses et donner une beauté indéniable à la réalisation. Mais ce n'est pas qu'une question d'effets spéciaux, puisque la direction artistique est excessivement travaillée pour représenter les différents royaumes, les accessoires, les costumes et l'atmosphère ésotérique. Chaque épisode fait en fait office d'un tableau mythologique d'ensemble. À chaque épisode, on voyage pour une nouvelle quête dans un monde fantastique à découvrir. Alors, on y trouve un peu d'épouvante, de gore et de moments glaçants, puisqu'il y a quand même une atmosphère lugubre, mais on tombe jamais dans le glauque et il reste quand même de très beaux moments de poésie dans cet univers. Donc pour moi, la série est une très belle réussite, esthétique et envoûtante, qui prouve qu'il est possible d'adapter à l'écran les œuvres les plus singulières. Alors maintenant, je vais donner la parole à Yann, qui va nous parler de Six Feet Under, mais d'abord, on va écouter un morceau du générique. We'll be right back.
De 2001 à 2005 sur HBO, le monde pouvait se délecter d'une grande série, drôle, intelligente, bien conçue, esthétiquement enviable, qui montrait toute la complexité d'une famille de croque-morts. Oui, chers auditeurs, des croque-morts. Créé par Alan Ball, joué entre autres par Michael C. Hall, qui incarnera des années plus tard le célèbre serial killer Dexter, Six Feet Under est une série qui marqua l'histoire de la série. Une esthétique plus moderne que Oz, dont je vous avais parlé la dernière fois. Une réflexion moins violente, mais beaucoup plus profonde de notre personne occidentale du début du XXIe siècle. En effet, cette série porte évidemment sur notre rapport à la mort. Mort de spectacle, avec l'ouverture à chaque épisode avec le mort du jour. On voit sa mort, ses dates sur un fond blanc, le générique, la préparation de son corps en vue d'être présentable pour ses funérailles, tout au long de l'épisode en arrière-plan et, à la fin de l'épisode, ses obsèques. On y voit des morts simples, logiques, stupides, drôles, affreuses, dérangeantes. On voit graviter autour cette famille avec cette mère qui va devoir assumer son rôle de femme et sortir de sa cuisine névrotique des années 60. Le fils aîné qui n'a jamais voulu reprendre l'affaire familiale mais qui s'y retrouve. Le fils cadet qui cherche à vivre son rôle de croque-mort tout en étant homosexuel. Et la Benjamine qui va chercher dans l'art ses réponses à ses questions métaphysiques, ce qui peut se comprendre en vivant dans un monde prédominé par la mort et dont la voiture est un corbillard vers Anis. 63 épisodes répartis en 5 saisons, récompensés aux Golden Globes et Emmy Awards plusieurs fois, qui nous plongent au cœur de cette famille et de leurs interrogations que vous ferez vôtres et un final incroyable. D'une finesse et d'une force rare. Six Feet Under vous mènera au paradis de la série. Et maintenant, on va pouvoir écouter la chronique de Anne sur It's a Sin en écoutant la bande-annonce de la série.
So, where do you see yourself in 5 years' time?
What do you want to be doing?
What's the plan?
I just want to be happy. I want to learn everything.
I'll be stinking rich.
He's going to London.
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 I'm getting out of here. I'll be staying at 23 Piss Off Avenue, London W. Fuck.
The history of the men like us have always been hidden away in secret. But then there's the real world.
There's a million pubs and things. I love it, here.
I came to London and I thought, great, I can be gay.
We're gonna have a party every night.
Morning.
Have you seen this?
He said, she said, they said. They're always saying something.
They think it's this virus. AIDS.
There are boys dying all over the world from sex.
Don't be ridiculous. That would be all over the news.
The government knows all about it and they're keeping it quiet.
Do you think there's an illness that only kills gay men?
The whole thing is a pack of lies.
It's a Sin est une véritable pépite de Russell T. Davis, le créateur de Queer as Folk et de Years and Years, autre série inoubliable. Ici, il nous emmène à Londres, dans les années 80, auprès d'un groupe d'amis d'une 18aine d'années. Plusieurs d'entre eux ont fui leur famille pour assumer pleinement leur homosexualité. Et on va suivre leur rencontre, leur amitié, alors qu'ils partagent le même appartement. Ils vont faire la fête, bien décidés à vivre librement et profiter de leur jeunesse. Insouciants, jusqu'à ce qu'une mystérieuse maladie se propage dans la communauté gay et les conduise à endurer l'horreur de l'épidémie, les préjugés et la douleur du rejet. Cette mini-série chorale évoque de manière sensible la génération de jeunes Britanniques fauchés par le VIH. 5 épisodes forment une fresque qui embrasse la première décennie du sida et chacun fait un saut de 2 ans, montrant bien la progression de l'épidémie. Au départ, le silence des médias, les rumeurs contradictoires qui parlent de cancer gay rendent sceptiques. D'autant que les modes de transmission sont inconnus. On assiste à la prise de conscience progressive et très vite à la suspicion, la peur, l'humiliation, quand les séropositifs étaient traités en pestiférés, leur corps refusé par les pompes funèbres. La série traite aussi de façon magistrale des conséquences de l'absence de dépistage et dénonce l'homophobie institutionnelle. À la fin de l'épisode, du dernier épisode, Jill, la bonne copine, qui est le personnage féminin qui porte tout le groupe d'amis, leur fait comprendre que beaucoup de personnes auraient pu être sauvées si, au lieu des campagnes d'injures homophobes, des campagnes d'information avaient été menées. Cette héroïne apporte une dimension politique à la série, mais contrairement à 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, qui racontait l'histoire du mouvement ACT UP et évoquait le sida d'un point de vue militant, It's a Sin aborde l'épidémie d'un point de vue intime. En ce sens, elle est plus proche des chroniques de San Francisco. Ça sonne vrai, les personnages sont vivants, attachants. Au-delà de la qualité du casting, Russell T. Davies s'est inspiré de son expérience. La formidable Jill, par exemple, est inspirée de son amie de jeunesse. Elle est le cœur battant de la série, elle est incroyablement émouvante. J'ai moi-même rarement été autant submergée par une série. On passe par une multitude d'émotions, tout en évitant les écueils larmoyants. Ici, pas de complaisance, grâce à une mise en scène et une écriture remarquable. Elle jongle parfaitement entre les registres, et elle est aussi déchirante que joyeuse et drôle. Elle nous fait vibrer avec ses personnages lumineux. C'est la pulsion de vie qui triomphe. Et l'énergie, renforcée par la bande-son entraînante de la pop des années 80 avec Blondie, Wham, Queen, Kim Wilde. It's a Sin, c'est aussi le titre de la chanson des Pet Shop Boys qu'on a entendue, sortie en 87 et qui évoquait avec sarcasme le poids de la morale chrétienne dans le regard porté sur la communauté gay. C'est une belle chanson pour cette série qui est une magnifique ode à la vie. On va maintenant aller au Japon avec la série Midnight Diner Tokyo Story, dont on va entendre un extrait de la BO.
Je reste fidèle au Japon et dans la continuité du roman d'Ito Ogawa que je vous avais présenté lors du tout récent Rendez-vous Culture, j'ai souhaité vous replonger dans cette atmosphère si particulière, dans le même style que le film Les Délices de Tokyo ou encore La Saveur des Ramen, et vous présenter cette série Midnight Dinner Tokyo Stories. Et oui, les réalisateurs japonais n'hésitent pas à mettre les arts de la table au cœur même de leurs œuvres. Et comment ne pas penser au dorayaki, ces petits sandwichs de pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges sucrés du film Les Délices de Tokyo. Enfin, revenons à notre plat principal. C'est une production Netflix totalement adaptée du manga La Cantine de Minuit de Yaro Abe, aux éditions Le Lézard Noir, et de la styliste culinaire Nami Lijima pour les recettes adaptées à l'écran. Cette série compte 5 saisons et condense le manga publié en 18 tomes. C'est une série qui fait vraiment appel à tous les sens. Alors pour vous donner un peu le ton de la série, on nous accueille au centre des intimités de comptoir du Japon moderne. Imaginez-vous un instant, traverser vers minuit une ruelle du quartier japonais de Shinjuku. Vous rentrez dans un petit restaurant, 15-20 mètres carrés tout au plus, avec quelques chaises autour d'un comptoir en U et au centre. Le maître énigmatique des lieux vous accueille avec le sourire, une oreille attentive, des conseils et une balafre étrange à l'œil. Un seul repas au menu, une soupe miso. Mais détrompez-vous, l'affluence est là. Nombreux sont ceux qui défilent en plus des habitués. Une avalanche de portraits et un exemple de mixité parmi les clients. On y retrouve des hôtesses, des chômeurs, des étudiants, des célébrités, des yakuza, des sportifs. Personne n'est mis de côté quand il s'agit de prendre une coupe de saké ou un plat convivial. Alors le patron, dont on ne connaît absolument pas son nom, vous accueille de minuit à 7h du matin pour préparer à la demande n'importe quel autre plat aux saveurs qui conviennent à chacun des palais de ceux qui entrent dans son restaurant. De quoi rendre jaloux nos meilleurs chefs étoilés. Alors je vais vous donner quelques idées de recettes qui sont présentées dans la série. Alors vous avez des épinards sautés au yaourt, un ragoût à la crème, du tofu frit fourré au natto. Chaque épisode porte le nom du repas qui figure au début de l'épisode et autour de ce plat. Les histoires qui s'y déroulent sont variées, dramatiques et drôles. Alors je voulais vous préciser par exemple l'épisode où l'on voit Ryu, qui est un yakuza, qui se lie d'amitié avec une dame âgée grâce au plat qu'ils affectionnent tous les deux. Et quand plus tard elle apprend qu'il est blessé, elle lui apporte ce même plat tous les jours pendant sa convalescence. Le chef, lors de chaque épisode, prépare des plats apaisants, réconfortants, adaptés pour chacun des personnages. Une sorte de Madeleine de Proust, un savant mélange d'histoires d'amour, de parcours de vie, de revers de fortune. Leurs immersions gastronomiques esquissent en filigrane un portrait tendre et affûté de la société nippone, avec ses frustrations et ses contradictions. Alors attention de ne pas confondre cette série avec un cours de cuisine. Ce sont des séries surnommées dramas culinaires, dans lesquelles le plat lui-même est souvent la clé de l'intrigue de l'épisode. Bref, c'est une série pour les fins gourmets, alors je vous souhaite une bonne dégustation. Et je passe effectivement à une version vocale des Pluies de Castamere, un des thèmes musicaux de la saga Game of Thrones, House of the Dragon, présenté par Antoine.
And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.
J'ai toujours des frissons quand j'entends cette chanson, parce qu'en général, dans Game of Thrones, elle n'annonce pas des bonnes nouvelles ou des événements joyeux, même si parfois les événements où elle prend place sont joyeux, avant la chanson du coup. Alors, je vais vous parler de deux séries bien connues, en tout cas issues de deux séries bien connues, House of the Dragon et The Rings of Power. Alors, j'ai choisi ces deux séries et d'en parler en parallèle parce que, d'abord, ces deux séries qui sont issues de sagas à succès, tirées de livres également à succès, Le Trône de Fer et Le Seigneur des Anneaux. Ces deux séries qui sont dotées d'un budget faramineux, plus de 200 millions de dollars par saison chacune. Et puis, ces deux séries qui sont clairement concurrentes, diffusées par HBO qui ont été commencées d'être diffusées par HBO à partir du 21 août pour l'une, par Amazon Prime à partir du 2 septembre pour l'autre. Et elles ont une autre caractéristique commune qui est très importante et pour moi, c'est que c'est des séries dont on connaît la fin. Alors moi j'aime bien les séries à suspense et c'est un peu plus difficile quand les séries sont des préquelles, comme c'est le cas ici, et que en fait le suspense est forcément un peu handicapé par le fait que on sait ce qui se passe après puisqu'on a vu les séries d'avant. Alors comment s'en sortir pour faire une bonne série avec une histoire dont tout le monde connaît la fin ? Il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est de jouer sur le tragique. On ne réfléchit pas forcément à ça quand on pense au tragique, mais une des bases de la tragédie, c'est que c'est des histoires connues, avec des personnages célèbres, et donc tout le monde connaît la fin. Et tout, toute l'habileté de la tragédie, c'est vrai pour Oedipe Roy, c'est vrai pour toutes les tragédies antiques, c'est qu'on a beau savoir ce qui va se passer, on est quand même ému, on est quand même touché par la terreur et la pitié, on est impressionné par la grandeur des personnages, par l'ampleur de leur destin, et par les conflits intérieurs que peuvent ressentir les protagonistes. Et alors ça, c'est exactement la stratégie de House of the Dragon. C'est un peu déstabilisant au départ, parce que Game of Thrones, c'était une série à suspense. On avait des rebondissements, on avait beaucoup de surprises. Là, la surprise, elle est forcément moins forte. Et c'est rattrapé par une réalisation splendide, par des détails qui font que chaque scène mérite d'être vue et revue. Je conseille d'ailleurs pour ça ça, c'est un peu un truc de geek, mais de regarder ensuite des vidéos de commentaires sur YouTube. Vous avez notamment en français la très bonne chaîne de Captain Popcorn et en anglais, une chaîne que je trouve excellente, mais c'est de l'anglais un peu rapide, j'ai parfois un peu de mal. C'est la chaîne de New Rock Stars. Déjà, à l'époque de Game of Thrones, c'était les meilleurs commentaires. Et ça permet de revoir, de repenser aux scènes en repérant chaque détail, chaque symbolisme. Et du coup, de vraiment repérer tout ce qu'il y a comme œuvre d'art, en fait, dans cette série. Et puis, pour finir, les acteurs sont extraordinaires et ils sont environnés en permanence par la musique de Ramin Djawadi, toujours la continuité de Game of Thrones, et c'est une splendeur. Alors, deuxième stratégie, d'enrichir l'histoire d'origine, d'être plus dans une démarche baroque que dans une démarche antique. Et on a beau savoir les grandes lignes de ce qui va se passer, finalement, ce qui va être l'intérêt de la série, c'est tout ce qui se passe à côté. C'est les personnages, c'est les aventures parallèles. Et j'ai trouvé que Les Anneaux de Pouvoir, donc la série tirée du Seigneur des Anneaux, avait réussi ce pari, qui est un pari difficile, avec des personnages secondaires qui arrivent à être très riches, sur lesquels on passe du temps, on prend le temps vraiment, ce que peut-être House of the Dragon n'a pas complètement réussi. On a des intrigues qui paraissent secondaires au départ et qui en fait, par surprise, finissent par se révéler capitales pour la trame générale du Seigneur des Anneaux. Et puis des personnages, et ça j'ai trouvé ça très habile, qui apparaissent au début de la série, au milieu. Et en fait, on essaie de les rattacher à des personnages connus du mythe général et on n'est pas complètement sûr. Lequel est Sauron, est-ce qu'il y en a un qui est Gandalf, etc. On essaie de faire le lien entre les personnages qu'on voit et les personnages qu'on connaissait et ça donne finalement beaucoup de surprises. Et à la fin, finalement, j'ai trouvé que Les Anneaux de Pouvoir avaient réussi à rattraper un peu Game of Thrones sur sa spécialité, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas le camp du bien et le camp du mal. Alors que dans Les Seigneurs des Anneaux, normalement, vous avez quand même les gentils et les méchants. Et la spécialité de Game of Thrones, c'était que les frontières entre bien et mal sont largement floutées. Et j'ai trouvé que finalement, Les Anneaux de Pouvoir arrivaient à être un peu meilleurs que Game of Thrones dans ce domaine-là. Et donc, j'ai beaucoup aimé les deux séries pour des raisons différentes. Mais à la fin, c'est peut-être Les Anneaux de Pouvoir qui m'ont le plus surpris. Mais je crois que mon collègue Yann a une idée différente.
Oui, tout à fait, Antoine. Le problème des Anneaux de Pouvoir, et sans mettre en parallèle mon goût pour Tolkien, c'est que je trouve que c'est une série qui a eu énormément de moyens, puisque, comme tu le disais, le budget était faramineux. Ils avaient des moyens incroyables au niveau des effets spéciaux. On voit notamment l'île de Numenor, qui est splendide, qui est bien respecté. Mais ensuite, il s'amuse à faire du fan service avec des clins d'œil, en reprenant des mises en scène, des relations entre personnages qu'on a déjà vues dans Le Seigneur des Anneaux. Ce qui fait que finalement, pour une série qui est si attendue, puisque très délicate à prendre, hein, il s'agit d'une période de plusieurs milliers d'années, rien que sur la saison 1, entre justement la création du monde, le premier âge, la guerre contre le grand méchant Morgoth, et le troisième âge, et la toute fin du troisième âge, plusieurs milliers d'années après, avec l'intrigue du Seigneur des Anneaux. Ils prennent des libertés sur la chronologie, je veux bien le croire, on ne va pas faire une série en temps réel, je crois qu'on n'en verrait pas la moitié. Mais de prendre des personnages cultes, on va dire, tels que Galadriel, et d'en faire une jeune adulte, junkie de la vengeance, on occulte complètement la richesse de ce personnage. même si sans rentrer dans les détails, et je vais me retenir, ça pose un problème. Le jeu, pareil, entre Gandalf, pas Gandalf, Istar, pas Istar, Sauron ou pas, ça n'a pas lieu d'être ici. Puisque finalement, et c'est ce qui faisait la richesse de cette annonce de série, c'est justement l'histoire des anneaux de pouvoir et voir comment les elfes qui étaient justement vus dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, comme des gens un peu d'une grande sagesse, qui ont des grands problèmes, des grandes problématiques, on va les réduire finalement à des gens totalement quelconques, baignant dans le mélo. Parce que la part du mélo dans cette série est vraiment très présente entre Galadriel qui veut venger son frère, Galadriel qui finalement n'est pas très perspicace a priori, le nain et Elrond.
Attention, pas de spoiler.
Non. le nain et Elrond qui ont finalement un copier-coller de la relation entre Gimli et Legolas. Donc ça gêne un peu. Et surtout que Elrond et Galadriel ont l'air très proches en âge, en maturité, alors qu'ils ont quand même plusieurs dizaines de milliers d'années d'écart. Donc ça pose un peu problème. Alors qu'ils avaient un terreau extrêmement fertile et en se fondant seulement sur les anneaux de pouvoir, ils pouvaient faire quelque chose de très riche, d'assez surprenant, d'assez nouveau, au lieu de vouloir recycler les personnages. Et que dire des ancêtres des Hobbits qui font perdre tout l'intérêt des Hobbits. L'intérêt des Hobbits, c'est que finalement, c'est un Deus Ex Machina totalement banal dans le Seigneur des Anneaux qui arrive. Ah oui, ces trucs-là, ça existait. Quelques légendes parlaient de semi-hommes dans la Terre du Milieu, mais personne n'en avait vraiment jamais vu. Et là, d'un seul coup, pouf, allez, on part à l'aventure et on voit les ancêtres des Hobbits. Sachant que, si on parle simplement de l'époque, ils sont bien plus ancestraux que Gollum, qui est déjà un ancêtre des Hobbits. Donc, je veux bien, et je trouve ça normal, qu'on prenne des libertés, qu'on joue sur la chronologie. Mais au bout d'un moment, il y a une certaine cohérence à retrouver et à garder. Et c'est vraiment dommage. J'espérais beaucoup de cette série. Et dès la scène d'ouverture, la séquence d'ouverture, on a un copier-coller du prologue du Seigneur des Anneaux.
Ouais, alors c'est intéressant parce que, alors moi je suis peut-être moins fan de Tolkien, mais j'ai quand même lu et vu Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, et j'ai pas été plus gêné que ça par les incohérences. Par le mélo, effectivement, parfois, et c'est assez gênant. Aurore, vous avez aussi vu la série, est-ce que vous avez un avis ?
Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Yann, parce qu'en fait, c'est un peu comme vous, ça m'a pas trop dérangé qu'il y ait des incohérences temporelles ou quoi que ce soit dans la série. Moi je trouve ça réconfortant, je suis contente de retrouver mon univers avec les bribes de ce que je connais et d'essayer de raccrocher les wagons. Et puis en même temps, je suis émerveillée de découvrir toutes les nouvelles cités, les personnages comme ils étaient avant. Et puis c'est vrai que Galadriel, on la connaît plus un peu en Dame du Lac, hein, j'ai envie de dire, parce qu'elle est un personnage très prestigieux, mais très en paix, quelque part, quand on la voit dans Le Seigneur des Anneaux. Et alors que dans Le Hobbit, elle est déjà encore un petit peu contente de batailler, je vais dire ça comme ça, c'est mal formulé, mais voilà. Et là, en fait, on la voit effectivement très, très en vengeance, mais moi, je ne l'imaginais pas du tout guerrière à ce point. Et en fait, je trouve ça très intéressant aussi d'avoir cette perspective-là et de dire, bah, finalement, des milliers d'années plus tard, elle est très en paix, elle n'a pas fini son combat et pourtant, elle a quand même trouvé une certaine paix. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin de trouver la paix quand on n'a pas été en conflit avant ? Voilà, c'est un débat ouvert, mais enfin voilà, moi je trouve ça assez réconfortant comme ambiance de pouvoir voilà, et je suis émerveillé.
Là où je te rejoins entièrement, c'est le côté réconfortant et un peu ce qui sauve la série. C'est que par exemple, on a une visite qui n'est pas assez développée, je trouve, d'ailleurs, de la Moria, par exemple. Où là, bon, de voir la Moria autrement qu'en forme de tombeau, c'est quand même incroyable de voir les villes de Lindon, par exemple, et même le Mordor. C'est super intéressant. Et finalement, une des séquences qui est finalement... On pourrait débattre dessus pendant longtemps, mais la montagne du destin qui se réveille, à un moment donné, c'est quand même intéressant. Mais là encore, je trouve que, par exemple, pour les fans, ben, pas justement pour les non-fans, au niveau géographique, compliqué de se repérer, non ? Parce que, alors... Moi,
c'est le problème de tous les bons romans de fantasy.
Mais, ah non, mais les non-fans, ils n'ont pas besoin de se repérer, en fait. On ne comprend pas le détail de la carte, mais ça va, en fait.
Je trouve que là-dessus, au début, dans les premiers épisodes, on avait quand même une vision, et qui, au fur et à mesure, et de temps en temps, ils reprennent. Alors, on ne sait pas pourquoi ils reprennent dans ce cas-là. On peut faire le parti de dire, bon, bah, découvrez l'univers au fur et à mesure, mais dans ce cas, arrêtez de mettre les petits noms par moment, etc. Où là, justement, on se demande, encore une fois, ils n'arrivent pas à faire leur choix.
Oh, tu pinailles.
Bon, en tout cas, c'est intéressant qu'on ait des avis différents sur la série. Je pense qu'il va falloir que vous la voyez vous-même pour vous faire un avis. Et on va passer à la suite avec Godless. Et avant que Nathalie vous présente Godless, on va écouter un extrait du générique.
Alors, Godless est une mini-série américaine arrivée sur Netflix fin 2017, qui est composée de 7 épisodes. Elle a été créée par Scott Frank, qui sera bien connu ensuite pour avoir écrit et réalisé Le Jeu de la Dame en 2020. Godless rassemblait déjà des grands noms, puisqu'elle a été produite notamment par Steven Soderbergh. C'est une série qui possède toutes les caractéristiques du western américain typique. L'histoire est assez simple. Un hors-la-loi est traqué par son ex-partenaire devenu son ennemi. Durant sa cavale, il se retrouve dans une petite ville minière nommée La Belle, au Nouveau-Mexique, dont il va troubler le quotidien. On y retrouve des personnages classiques, comme le hors-la-loi mystérieux, le chef de bande psychopathe ou la fermière coriace. La série nous fait entrer dans une grande fresque dans laquelle vivent des personnages qui ont de la trempe, et qui sont campés par des acteurs qui savent développer notre imaginaire grâce à la nuance de leur jeu. Parmi les acteurs principaux, on retrouve Jeff Daniels dans le rôle de l'antagoniste instable et hanté, ainsi que Michelle Dockery, qui jouait déjà une femme forte dans Downton Abbey. Si je vous parle de cette série, c'est parce qu'elle a plus d'une particularité qui font tout son charme. Elle transpose d'abord les codes du western dans un environnement en décalage, puisque la petite ville de La Belle est peuplée de femmes, car la plupart des hommes ont péri quelques années auparavant dans un coup de grisou. Donc la série a une dimension féministe assez inédite, puisque les femmes ont pris le pouvoir et gèrent la ville et défendent ses intérêts comme elles le peuvent dans cet univers hostile. La série sait également prendre son temps parfois. On a de longs dialogues et des scènes descriptives qui nous permettent d'en apprendre davantage sur l'histoire des personnages et sur ce qui les motive. Les personnages sont en tout cas ni blancs ni noirs, certains sont très décalés, ce qui nous donne envie de savoir de quelle manière ils vont évoluer. La réalisation et la photographie sont magnifiques. Il s'agit d'une reconstitution réaliste et soignée qui évoque les livres d'histoire et les photographies d'époque, qui se mêlent au grand spectacle des paysages de western, qui sont d'ailleurs mis en valeur par de nombreux plans larges et quelques ralentis très bien placés. La lumière est particulièrement bien utilisée pour mettre en avant les contrastes et elle souligne les états d'âme des personnages. Le ton est souvent grave, puisqu'il s'agit quand même d'une chasse à l'homme avec une tension qui monte d'épisode en épisode. Mais on y voit également beaucoup de tendresse et d'amour et on rit beaucoup également. Donc pour toutes ces raisons, Godless est une série que je vous conseille fortement. Maintenant, on va écouter Yann qui va nous parler des Shtizel, une famille juive à Jérusalem. Mais d'abord, on va écouter un extrait du générique.
Les Shtizel, une famille juive à Jérusalem, ou les papillotes rattrapés par le modernisme. Mini-série de 3 saisons de 9 épisodes, ce qui reprend des nombres premiers et sacrés de l'Ancien Testament. Hasard, je ne pense pas. Cette série, diffusée sur Netflix, a été diffusée entre 2013 et 2021. La série a été créée par un ancien ultra-orthodoxe et un sioniste. Cette série rend compte de la vie d'une famille juive ultra-orthodoxe dans le quartier de Géoula, à Jérusalem. Loin des clichés et d'une vie romantisée. Cette famille, on la voit confrontée à de nombreux points clés de la vie. Les décès, les deuils, les amours, le travail et la modernité qui vient se confronter à la plus vieille religion monothéiste et ses haredrim qui rejettent la dite modernité. Comment vit un jeune haredrim qui a perdu sa mère et qui ne se voit rien faire d'autre que de dessiner et peindre? Comment vit une mère haredrim qui se voit abandonnée par son mari? Comment et pourquoi l'abandonne-t-il? Comment change une jeune fille qui devient chef de famille pour aider sa mère et qui voit revenir la queue entre les jambes, un père ayant voulu respirer? Que faire lorsqu'on découvre que la femme aimée et conseillée a des troubles psychiatriques? Voilà les questions que pose cette série avec le filtre réflexif de cette communauté. Cette série aussi est forte dans l'implicite, dans le regard peu inquisiteur de la caméra, dans ce générique doux et fort à la fois et qui permet une certaine contemplation et méditation. On peut noter également la présence de Shira Haas, qui joue Rumari Weiss, et que vous pouvez retrouver dans Unorthodox, une autre série Netflix, dans laquelle elle incarne une haredrim fuyant sa famille pour s'exiler en Allemagne. Une série à voir en parallèle et qui insiste sur la difficulté de vivre et de quitter cette communauté. Par contre, vous ne retrouverez pas dans Unorthodox une vision, on va dire, banale, un certain réalisme qui manque à cette deuxième série. Les Shtizel, série à voir et à revoir, et qui fait bien méditer. Et maintenant, on va pouvoir entendre Anne nous présenter les fameux papillons noirs d'Arte et de Netflix. En écoutant d'abord la bande-annonce.
Vous avez une idée de combien de temps ça peut prendre?
Tout dépend de ce que vous avez à raconter et de la fréquence à laquelle on se voit.
Ah non, tout commence avec Solange. Avant Solange, il n'y avait rien.
Mais comprends-moi bien, là, je te raconte des dates, des lieux, des noms. Je décris des scènes avec des détails. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passait dans notre tête. Ça, ça peut pas se raconter. Faut avoir vécu pour comprendre. Et c'est là que ton talent intervient, Adrien. C'est à toi de retranscrire tout ça, d'imaginer, de t'imprégner, de ressentir. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi.
Les Papillons Noirs est une série en 6 épisodes. Elle a fait sensation à Sérimania et auprès de mes collègues aussi, puisque nous étions quand même 3 à vouloir vous la conseiller. C'est un thriller français intense réalisé par Olivier Abou. Il met en scène Adrien, un écrivain de romans noirs en panne d'inspiration, contacté par un homme âgé qui lui propose d'écrire ses mémoires. Au fil des séances d'écriture, les échanges se transforment en véritable confession, une confession dérangeante sur un couple de tueurs en série. Il va relater une sanglante odyssée qui expose la question du viol et de la vengeance dans la France des années 70. On a donc d'un côté le récit intime avec des flashbacks, d'un autre le travail de création de l'écrivain incrédule qui perd pied face aux atrocités qu'il doit retranscrire sans pouvoir révéler que ce n'est pas de la fiction. Et dans un troisième plan, on suit l'enquête obsessionnelle d'un policier. Le scénario est complexe et brillant. Il mêle habilement présent et passé, tissant un dédale d'intrigues palpitantes. J'ai même été bluffée par le tour de force final qui nous prend totalement par surprise. Avec des scènes d'une brutalité stupéfiante, Les Papillons Noirs distillent une ambiance oppressante. L'horreur des actes qui se répètent tranche avec la placidité du narrateur. Et c'est ce calme qui rend l'histoire encore plus troublante, associé à la prestance et l'ambiguïté des deux protagonistes. Leur duel, tout en colère froide et non dit, est glaçant à souhait. C'est passionnant de constater l'effet produit par le récit d'Albert sur Adrien. Il fait ressurgir son animosité. De fait, la série ne parle pas tant de violence faite aux femmes que de la transmission de cette violence. C'est d'ailleurs le métier du personnage joué par Alice Belaïdi, l'épigénétique. C'est l'étude de l'hérédité des traits génétiques, biologiques ou comportementaux entre les êtres. La série questionne l'origine de la férocité. L'épopée de ce couple fascinant donne à la série un charme vénéneux qui apporte une souplesse de ton apaisante et fait qu'on suit les épisodes avec un plaisir surprenant. C'est addictif et visuellement captivant pour la parfaite reconstitution des années 70 et pour un maniérisme rétro. Les couleurs vives, les cadrages renforcent le malaise et la sensation de sauvagerie, avec des gros plans sur les yeux pleins d'effroi des victimes et les violents inserts sur les ciseaux ensanglantés. C'est un hommage au genre du giallo, ce mouvement italien en vogue dans le cinéma italien des années 70 qui entendait révéler nos démons par la violence. On a enfin une réflexion intéressante sur la recréation des souvenirs et sur les pouvoirs de l'écriture, puisque Les Papillons Noirs, le roman central de la série, écrit par le personnage d'Adrien Maudit, est paru début septembre en librairie aux éditions du Masque. Et une version lue par Nils Arestrup lui-même paraîtra aux éditions Audiolib le 26 octobre. Un authentique ouvrage, écrit par un écrivain fictif, qui est en réalité Gabriel Katz, voilà qui offre un hors-champ de la série très original. Et mais maintenant, un changement d'ambiance, mais toujours aussi angoissante, voire même peut-être plus, avec Dameur, présenté par Aurore, on va entendre un extrait de la bande-annonce.
Et on y est. Bienvenue chez moi. Oh. C'est quoi cette odeur?
Oui, alors moi, j'avais envie de vous parler effectivement de la série Dahmer Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, donc bien la série Netflix extrait de faits réels, mais fictive, pas le documentaire en fait, voilà. Je ne m'exprime pas du tout bien, mais ce n'est pas du tout grave. Et j'avais envie de mettre en fait cette série Netflix en perspective avec un autre film sur un tueur en série également, le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, le film sur Ted Bundy. Alors, pourquoi faire ce choix? En fait, on parle dans ces deux... films, séries... On parle de tueurs en série. On parle de tueurs en série qui ont commis des crimes atroces, des crimes sexuels aussi. Et donc, on pourrait rapprocher ces deux personnages. Sauf qu'en fait, les choix qui ont été faits au niveau du scénario et de toute l'ambiance du coup des films sont complètement différents. Par exemple, pour Dahmer, on va être dès le début, on sait que c'est un tueur en série, puisque dès le premier épisode, il est pris la main dans le sac, si je puis dire. La police le trouve, trouve toutes les preuves qui l'accablent sur ses crimes. Alors que pour Ted Bundy, dans Extremely Wicked, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y a le suspense. Et si finalement, on n'était pas sûr que c'était une histoire vraie, peut-être même qu'on aurait toujours le doute sur savoir est-ce que c'était vraiment lui qui avait commis tous ces crimes. En tout cas, le scénario est tiré de cette manière-là. Quand dans Dahmer, on va du coup suivre ensuite la vie du jeune Dahmer pour savoir ce qui est arrivé à ce garçon pour qu'il devienne comme ça, on va plutôt suivre la vie de l'homme dans Ted Bundy et de ce qui se passe au moment des crimes. On ne va pas tellement revenir sur son enfance ou sa vie passée. On va partir à peu près du moment où il a commencé à commettre des crimes jusqu'à la fin de sa vie. Quand Jeffrey Dahmer attire, comme il peut, ses victimes chez lui pour pouvoir ensuite les droguer et les tuer, on est plutôt dans la séduction avec Ted Bundy, qui va faire ensuite preuve d'une grande violence envers ses victimes, mais il va les attirer pas par pitié, mais vraiment plutôt comme on attire une proie qu'on a envie de séduire. Et si Dahmer, lui, décide de cacher les corps, et c'est aussi pour ça qu'il ne va pas être découvert peut-être tout de suite, puisqu'il va les découper, les enterrer, essayer de les dissoudre, enfin, c'est très sympa. Ted Bundy va plutôt choisir de mettre les corps en spectacle. Et c'est aussi pour ça que ça va faire de lui quelqu'un de très recherché et dès le début, en fait, la police est en recherche active de qui a pu commettre ces crimes dans différents états. Mais Ted Bundy est un sociopathe, il est très intelligent, il échappe, et du coup, il s'éparpille aussi aux États-Unis. Alors que Dahmer va lui échapper aussi à la police, mais d'une manière différente, plutôt par négligence de la police et par le fait du coup qu'il a aussi caché la plupart des corps qu'il a tués. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de dire que l'ambiance, même dans la lumière qui est choisie pour Dahmer, rend vraiment le personnage extrêmement glauque et tous ses crimes aussi, alors que pour Ted Bundy, on va être plutôt dans des choix plus clairs et plus choquants dans la vision qu'on va avoir des corps, mais à la fin, on va jamais voir ce qui se passe entre deux, alors que pour Dahmer, ils vont nous montrer un peu comment on arrive jusqu'à tuer quelqu'un. Pour Ted Bundy, comme on a toujours le doute, est-ce qu'il l'a vraiment fait ou est-ce qu'il l'a pas vraiment fait, ben du coup on voit jamais comment ça se passe en fait. Est-ce que finalement on le savait vraiment? Je vous laisse découvrir. Mais voilà, en tout cas deux, un film et une série que je vous conseille. J'ai pas vraiment eu l'impression de vous spoiler puisque ce sont des histoires vraies, mais voilà, qui sont intéressantes et intéressantes à mettre en perspective aussi. On va terminer avec Amy et The Halcyon. Je vous laisse écouter un petit bout du générique.
Si vous avez aimé l'atmosphère et les intrigues de Downton Abbey ou The Crown, puisque ce sont ici les mêmes producteurs, ou souhaitez vous mettre à leur anglaise, nul doute que vous tomberez immédiatement sous le charme de The Halcyon, la série anglaise de Charlotte Jones. La série comporte une saison à raison de 8 épisodes au total. La guerre a été déclarée à l'Allemagne. Nous sommes à Londres en 1940, au cœur de l'un des hôtels de luxe les plus en vue de la capitale anglaise, The Halcyon, qui d'ailleurs porte le nom d'un oiseau. Détail assez important que vous verrez dans l'histoire. Tout y est mis en œuvre pour assurer confort, luxe et discrétion aux clients. Pour satisfaire à cette exigence, le personnel ne compte pas ses heures. Le palace est dirigé par Richard Garland, interprété par Stephen McIntosh, homme de confiance du propriétaire de l'établissement, Lord Hamilton, dont les activités se résument entre autres à quelques rencontres diplomatiques secrètes concernant la stratégie adoptée vis-à-vis d'Hitler. La guerre envoie les hommes au front et les avions allemands dans le ciel londonien précipitent les habitants aux abris. À Halcyon, l'orchestre jazz de Sonny Sullivan fait danser les clients, les cuisiniers rusent avec les restrictions, les femmes de chambre nettoient, lavent, rangent, voient tout et ne disent rien. Car en ces murs, dans les couloirs et les chambres, du sous-sol aux mansardes, naissent des histoires d'amour, se tissent des intrigues et se préparent des drames qui n'épargneront personne. Pas plus les aristocrates que les gens ordinaires. Baisers volés, trahisons, déferlantes de cocktails et stratégies militaires, 8 épisodes addictifs qui vous entraînent dans les coulisses du palace, le siège du MI5, les bombardements et les mondanités de la High Society. J'ai particulièrement apprécié l'attention portée à la résistance anglaise, au développement du contexte politique et militaire de l'époque, au Royaume-Uni. Et si je devais résumer entre autres la série, elle rend hommage à la Royal Air Force, dont la devise est « à travers l'adversité jusqu'aux étoiles ». Que ce soit par l'engagement, l'éthique du personnage de Freddie Hamilton, puisqu'il est lui-même pilote de la Royal Air Force britannique, ou encore la place de la radio durant le conflit, l'encouragement des troupes, de la population au travers du personnage de Joe O'Hara, qui est journaliste américain. La description du contexte politique de plus en plus instable, alors que depuis même 1940, le Royaume-Uni est soumis à la loi du Blitz, donc restrictions, terreurs, bombardements quotidiens de la Luftwaffe, l'aviation allemande. Alors j'ai quelques mentions spéciales à vous recommander. Tout d'abord la bande originale de la série, donc, qui reprend vraiment l'univers de James Bond, comme vous avez pu vous en rendre compte d'ailleurs avec la bande-annonce. Je vous recommande aussi l'épisode 5, puisque un mariage est célébré pendant le Blitz. Donc en même temps, il y a des soirées jazzy, avec notamment l'invité de marque, que j'apprécie particulièrement comme pianiste de jazz, donc qui s'appelle Jamie Cullum. Et qui a, pour la série, composé donc une chanson qui s'appelle Invincible. Et vous avez aussi l'épisode 6, donc les Anglais en dehors de l'hôtel se déplacent avec une petite boîte en carton ou en bois, qui est donc posée sur leur épaule par une ficelle. Et c'était un accessoire exigé pour la guerre et les bombardements. Donc il s'agit en fait d'une boîte dans laquelle se trouve un masque à gaz. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, en septembre 1939, il y a eu plus de 38 millions de masques à gaz qui ont été distribués par le gouvernement britannique aux civils pour se protéger d'hypothétiques lâchers de bombes chimiques lors de raids aériens allemands. Et donc ils n'ont finalement et heureusement jamais été nécessaires car la guerre chimique n'a pas eu lieu. Mais le port du masque dans l'espace public était encouragé et la majorité des Londoniens se promenaient effectivement avec ces boîtes en carton autour du cou ou avec le masque sur le visage. Et je tiens à tirer particulièrement aussi mon chapeau au décorateur de l'hôtel, puisque c'est un hôtel qui a été construit de toutes pièces pour la série, dans une zone industrielle de Londres. Donc ils ont construit vraiment l'hôtel à la mesure de l'intrigue, donc comprenant les sous-sols, les cuisines, les luxueux escaliers ou encore le hall de réception. Alors, les audiences ont été très correctes, mais n'ont malheureusement pas permis d'offrir une suite à la série. Mais je croise les doigts parce que les créateurs de la série recherchent toujours donc, un nouveau distributeur. Donc voilà, on espère vivement retrouver en tout cas la saison 2 de The Halcyon prochainement.
Ah oui, ce serait bien d'avoir une saison 2.
Merci beaucoup, Amy. Merci, Aurore. Merci, Antoine, Nathalie, Yann. Vous retrouverez tous les titres des séries dont nous avons parlé sur le site internet des bibliothèques. N'hésitez pas à commenter, nous dire si ces séries vous ont plu, si cette émission vous a plu et partagez également vos coups de cœur. La prochaine émission sur Graphite est le vendredi 25 novembre à 18h. Le prochain rendez-vous culture dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille sera le 18 novembre à partir de 18h. Merci à tous et très bonne soirée.